France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. La rupture entre les jeunes et les aînés. La cohabitation entre des noms glorieux et des noms inconnus. Le refus de toute opposition politique, ce qui n'empêche pas, bien entendu, la proximité des uns et des autres. La lutte contre l'influence trop grande des prix littéraires et de la publicité. Le souci de qualité, d'indépendance, de rupture de chapelle. Le respect de la tradition littéraire, mais aussi bien sûr la recherche nécessaire sur la littérature et le langage. En 1972, Françoise Esteb, pour la Revue des Idées, rencontrait l'écrivain Marcel Arlan pour évoquer cette longue et vieille histoire, la fondation de la Nouvelle Revue Française.
Aujourd'hui, la Nouvelle Revue Française, publiée par les éditions Gallimard. Dans le numéro de mars de la NRF, sont réunis les textes suivants. Un texte d'Henri de Monterland, la préface des convulsionnaires, manuscrit que Monterland a renoncé à publier. Des poèmes, encore, poèmes de Guy Vic, au poème de Gabriel Audizio. L'Évangile selon saint Marc, de Borges. Un essai de Claude Esteban sur Francis Bacon. Francis Bacon ou la peinture à vif. Requête 2 de Pierre Auster et Éluard jusqu'à la fin de Claude Roy. À la suite des chroniques et notes critiques, on trouve dans la rubrique Regards un texte de Georges Perros, La famine, un texte de Jacques-Pierre Hamet, Son visage, et de Jude Stéphane, Tombeau de Champfort. Marcel Arlan de l'Académie française, qui dirige la NRF, a bien voulu nous parler de la revue et nous faire brièvement l'historique de la NRF qui, vous le savez, a été fondée par André Gide, a cessé d'être publiée pendant la guerre pour reprendre en 1953 sous la direction de Jean Paulhan et Marcel Arlan. Le mercredi 5 avril, le poète Jean Grosjean, qui assume avec Dominique Horry le secrétariat général de la revue, nous parlera de la poésie à la NRF. À propos de la fondation de la NRF par André Gide, nous avons demandé à Marcel Arlan de nous dire dans quel esprit André Gide et ses amis ont fondé la revue.
Oui, c'est déjà une longue vieille histoire. Gide et ses amis, Copeau, Wuyters, Schlumberger, Jacques, etc., avaient fondé la revue dans un esprit, si je me dis le mot de réaction, ce serait idiot, mais je veux dire qu'ils voulaient réagir contre la facilité qu'il y avait dans la littérature de leur époque, c'est-à-dire parier sur la qualité, sur une certaine rigueur, sur un amour de la langue et de la littérature française, et d'une façon anticommerciale, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils se moquaient complètement du succès. Plus tard, le succès est venu, mais ils n'ont rien fait pour cela. Bien. La NRF a continué, a repris après la première guerre, après la guerre de 14-18, sous la direction de Jacques Rivière, et de nouveau, ça a été cet esprit, mais avec plus de d'ouverture aux jeunes. C'est ainsi que la NRF s'est même ouverte au moment d'Ada, à Aragon, à Breton, etc. Puis il y a des écrivains indépendants comme Malraux, comme moi-même, comme Chanson, Guillou, etc. Elle a duré, comme vous le savez, jusqu'à la guerre. Il y a un essai malheureux qui n'est pas Drieu La Rochelle pendant la guerre. Et puis, on nous a demandé de la reprendre dans l'année 1953. Jean Paulhan et moi, nous l'avons reprise. Chacun de nous n'aurait pas voulu la reprendre sans l'autre. Nous l'avons reprise et nos buts étaient ceux-ci. C'était premièrement, il y avait une coupure, une rupture entre les jeunes qui ne connaissaient plus leurs aînés. Et les aînés qui connaissaient appellent les jeunes. Nous avons voulu les réunir, les rassembler, c'est-à-dire des noms glorieux et des noms absolument inconnus. Nous avons voulu aussi, à une époque qui était déjà très troublée, écarter toute hostilité du genre politique. C'est-à-dire que nous avons rassemblé des écrivains de différentes façons. Ça allait d'Aragon à Malraux, par exemple, pour les aînés. nous avons voulu de nouveau essayer de lutter contre une influence trop grande des prix littéraires, de la publicité, etc. Et nous sommes, je crois, parvenus peu à peu, à peu près, à ce que nous voulions.
Quelle est votre conception d'une revue littéraire ? Quelle place accordez-vous à une revue dans la production littéraire ?
Je crois que, effectivement, les revues littéraires ont sans doute moins d'importance qu'elles n'en ont eu autrefois, qu'elles n'en ont eu à l'époque de Gide, par exemple, ou de Rivière. Cela tient à beaucoup de choses, notamment à ce que tout le domaine de la radio, de la télévision, etc., des journaux. Cependant, la radio, la télévision, les journaux, qui s'adressent en principe à un grand public, ne peuvent pas avoir le souci d'une qualité qu'exige une revue littéraire. Et c'est ce souci de qualité, d'indépendance, de rupture de chapelle que je veux encore maintenir à l'intérieur de la Nouvelle Revue Française.
Les hommes de lettres qui signent dans la NRF sont assez souvent des noms très célèbres. Je pense par exemple dans le numéro de janvier 1972 à Roger Caillois, Le fleuve amour. Dans le numéro de mars, on trouve un texte d'Henri de Monterland. Je voudrais savoir, Monsieur Marcel Arland, si la NRF fait place aux jeunes écrivains. Et j'aimerais savoir également si vous avez découvert de jeunes écrivains ou de jeunes poètes.
Oui, bien sûr, nous faisons place aux jeunes écrivains. Je dirais même que c'est pour eux, surtout, que nous continuons notre effort. Nos collaborateurs glorieux comme Monterland, Caillois, Malraux, il y en a d'autres, n'est-ce pas, Aragon, etc., n'ont pas besoin de nous, n'ont pas besoin d'une revue littéraire pour se faire connaître. Mais il est bon que dans chaque numéro, il y ait un aîné, parce que ça fait plaisir aux jeunes, parce que ça soutient un peu au point de vue du public, surtout aux yeux du public et à leurs propres yeux, ça soutient un peu leur œuvre. Mais bien entendu, la Nouvelle Revue Française est surtout ouverte aux jeunes. Et notre principal souci, c'est de trouver, d'amener à nous des jeunes, d'ailleurs ils viennent, et puis, mon Dieu, je ne dis pas de les contrôler, ce n'est pas cela, mais parfois de les aider, de leur suggérer, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet article, il faudrait refaire cela. Et alors ils viennent, nous avons les entretiens très cordiaux, très amicaux même, et de ce côté-là, ça me semble réconfortant. Eh bien, que vous citez, dès le début, si vous voulez, dès la reprise de la revue en 1953, ben, nous avons été, à la Nouvelle Revue Française, les premiers qui ont soutenu ce qu'on appelait à ce moment-là le nouveau roman, c'est-à-dire Nathalie Sarraute, c'est-à-dire Butor, Rob Grillet et d'autres, n'est-ce pas ? Et nous continuons aujourd'hui. En même temps, d'ailleurs, que nous faisons place à des tendances presque opposées, comme Roger Limier et ses amis. Nous continuons, nous avons trouvé beaucoup de jeunes poètes. Je crois que la plupart, je ne dirais pas tous, mais la plupart des jeunes poètes aujourd'hui ont passé par la Nouvelle Revue Française. Ce sont d'ailleurs demeurés fidèles à la Nouvelle Revue Française. Je pense à des gens comme Jean Perrol, comme Jacques Reda, comme Jude Stéphan et quelques autres. Je pense à des prosateurs comme Daniel Boulanger, qui commence à devenir très connu par ses nouvelles, n'est-ce pas, à Jacques-Pierre Hamet, qui est très jeune, et de qui j'attends beaucoup, à Guy Roroux, je pourrais en citer d'autres. Nous avons avec nous à peu près ce qui compte dans la jeune littérature, et nous tenons à continuer dans cette voie-là.
On trouve également dans les numéros de la NRF des traductions de textes étrangers. Pourquoi ces traductions ?
Eh bien oui, de plus en plus même. On en trouve beaucoup plus aujourd'hui dans la Nouvelle Revue Française qu'on en trouvait avant la guerre. Pourquoi ? C'est pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que les échanges entre les peuples sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus intimes même qu'ils n'étaient autrefois. Le public français lui-même connaît très bien, connaît aussi bien certains grands auteurs américains, anglais, etc., russes, que certains auteurs très estimés, très connus en France. Une littérature ne peut pas vivre comme cela, fermé en dehors de tout. Il est nécessaire qu'il s'établisse des contacts. Et c'est pourquoi je tiens à donner, nous tenons à donner dans la NRF, des traductions d'écrivains, romanciers, nouvellistes, poètes étrangers à quelques pays qu'ils appartiennent.
La NRF fait également place aux essais philosophiques. Je pense à Manuel de Diéguez,
oui,
par exemple.
Oui, parfaitement. Manuel de Diéguez est un très bon exemple. Nous tenons à faire place aux essais philosophiques. Nous voulons même nous ouvrir un peu du côté d'essais historiques, d'essais, pourquoi pas, scientifiques, à condition toutefois qu'ils soient à la portée d'un public lettré, comme est le public de la NRF, mais non pas spécialisé. Alors ça, nous tenons beaucoup à cette ouverture, ce qu'on peut appeler l'activité même du monde, étant donné que les lettres ne peuvent pas vivre en vase clos. Elles sont en rapport aussi avec ce qui se passe chaque jour dans le monde.
Comment équilibrez-vous un numéro entre la poésie, la philosophie, la critique ?
Ah, la composition du numéro, oui, c'est un des gros problèmes, n'est-ce pas ? Et il faut d'abord faire la balance entre, précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, les noms très connus et les noms moins connus. Bon, il faut faire la balance entre la poésie et, disons, la prose, entre la philosophie et ce que nous appellerons la fiction ou l'essai intime, à la manière de Jouhandeau, de Georges Perros, etc. Alors, nous essayons qu'il y ait un peu de tout, mais tout en gardant une unité. C'est ça le difficile, avoir de la diversité dans le numéro et cependant à ce que le public sente qu'il y a un rapport, ne serait-ce que dans certaines oppositions. Voilà le problème que nous avons. Je ne dis pas que nous parvenons toujours à le résoudre. Ça dépend de ce que nous avons. Nous avons beaucoup de textes, on nous envoie beaucoup de textes. Mais il n'est pas toujours facile, malgré tout, de composer. Alors, c'est plus ou moins heureux, mais enfin, je ne suis pas, au fond, pas tellement mécontent.
Vous publiez aussi des numéros spéciaux, je pense au numéro Vie ou survie de la littérature et au numéro spécial sur l'image.
Oui, c'est vrai, nous publions des numéros spéciaux, un numéro chaque année. Même cette année, nous allons en publier un au mois d'octobre sur le roman historique. Le roman historique à travers les âges et pourquoi il est encore en vigueur, comment il a évolué, quel est son rapport avec l'histoire pure, avec le roman pur, etc. Vous voyez, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos collaborateurs. Donc nous faisons ça une fois chaque année sur des questions qui intéressent tous les écrivains, qui intéressent un grand public. D'autre part, très souvent et de plus en plus même, à l'intérieur même de la revue, nous sommes amenés à faire ce que nous appelons des petits ensembles. C'est-à-dire que nous prenons ou un thème ou un personnage. Un personnage, je veux dire un écrivain, un peintre, etc. Et nous groupons 3, 4 ou 5 témoignages indépendants sur cet écrivain, ce peintre, et parfois même nous y ajoutons des inédits de l'auteur. Par exemple, nous avons fait ça pour Georges Rouault, nous avons eu des idées de Rouault pour l'occasion du centenaire de Valéry, nous allons le faire pour des Anglais, nous avons une dizaine de petits hommages particuliers, de petites discussions, de petits ensembles comme ça, qui prennent peut-être 30 ou 40 pages, nous allons le faire pour des étrangers aussi, pour Powys notamment, donc dans le prochain numéro. Et nous allons le faire, je crois, aussi à l'occasion de l'exposition de peinture qui va avoir lieu bientôt sur la peinture moderne. Nous laissons toute liberté à nos collaborateurs, ils parlent selon leur cœur. Et par conséquent, cette discussion, parfois ces désaccords, pose la question d'une façon assez intéressante pour le public.
Monsieur Marcel Arlan, défendez-vous une tradition littéraire à la NRF ou la revue est-elle ouverte aux recherches les plus actuelles sur la littérature et le langage ?
Oui, les deux. Je veux dire que certes, nous défendons une tradition littéraire parce que nous aimons notre littérature, parce que nous aimons notre langue et que nous tenons à ce qu'elle évolue, mais non pas à ce qu'elle soit absolument rognée comme on voudrait le faire. Ceci aussi bien en littérature qu'en peinture, etc. Cependant, il va de soi que cette littérature que nous aimons doit évoluer et que nous faisons extrêmement attention aux différentes manifestations par lesquelles cette évolution se manifeste. Nous n'irons pas jusqu'à publier des textes qui soient franchement des défis même au public, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de ces textes absolument fabriqués, je veux être nouveau à tout prix, et pour cela je renie tout, j'annonce tout, etc. Il n'y a que trop de livres comme cela aujourd'hui, ça changera d'ailleurs. Donc, dans ces limites-là, dans les limites de la plaisanterie aussi, car ça devient parfois de la plaisanterie, nous sommes pour une évolution, pour un changement perpétuel dans la littérature française qui ne peut vivre qu'en se rénovant.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 mars 1972.
Hold it, hold it, hold it, hold it.